Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la volonté de Dieu et de sa loi de bonheur. Le psaume 118, entièrement consacré à la loi de Dieu, est si long qu'on ne le lit jamais d'un seul trait. Mais parfois, nous tombons sur un ou plusieurs versets qui peuvent nous émouvoir. Ainsi, lorsqu'on aime les sciences et leurs ouvertures sur la grandeur et l'infinie puissance de Dieu, on ne peut pas rester indifférent au verset 96. « J'ai vu des bornes à tout ce qui est parfait, ton commandement n'a point de limite. » Ceci, c'est dans le psaume 118, verset 96. Ainsi, nous voyons des bornes à toutes les perfections, mais les volontés de Dieu, qui n'ont pas de limite, sont d'une ampleur infinie. Incontestablement, toutes les perfections terrestres ont des bornes. De cela, nous sommes parfaitement convaincus, car la science moderne, dont les Lumières prétendaient qu'elle expliquerait tout des merveilles de la création, la science moderne est aujourd'hui affrontée à de multiples limites, car chaque découverte, au lieu de donner une explication définitive, pose de nouvelles questions. Par contre, les volontés de Dieu sont d'une ampleur infinie. Et voici que nous butons soudain sur la signification de la deuxième partie de ce verset 96. S'agit-il de la seule volonté de Dieu ou de ses commandements? Mes amis, tout d'abord pensons à la création. Dieu dit et cela fut. Ici, il s'agit de la volonté de Dieu, créateur. Bientôt, après avoir créé l'homme et lui avoir donné tout ce dont il aurait besoin au cours de sa vie, Dieu lui donna un commandement. Et Yahvé Dieu donna à l'homme cet ordre, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ceci est dans la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Ici, il s'agit bien d'un commandement. Quand Dieu veut, il fait. Puis, pour conserver ce qu'il a fait, il ordonne. Oui, il y a une différence entre la volonté et les commandements. En effet, parfois, nous les hommes, nous dévions. Ainsi, en ce qui nous concerne, c'est parce que nous voulons que notre prochain agisse selon nos désirs que nous commandons, que nous exigeons. Mais lorsqu'il s'agit d'un ordre de Dieu, comme dans les versets 16 et 17 du chapitre 2 de la Genèse, nous sommes face à un commandement destiné à conserver la vie de l'homme. Ici, l'ordre de Dieu exprimant sa volonté est manifestation de son amour. Maintenant, nous pouvons aller nous perdre dans l'infini de la volonté de Dieu. Mes chers amis, tout d'abord, regardons l'immensité de l'univers qui s'agrandit toujours. Cette immensité est vertigineuse et nous déséquilibre un peu. Les recherches sur le début de la vie sur Terre nous troublent souvent car elles évoluent constamment ou même se contredisent. Alors, pour nous, qui sommes un peu perdus, Dieu devient si grand que nous ne pouvons plus le suivre, ni même l'imaginer. La volonté de Dieu elle-même nous bouleverse et notre vertige s'accroît. Alors, pensons à certaines affirmations qui prétendent que l'homme descend du singe. À la limite, pourquoi pas? En effet, nous savons tous, sans nous référer aux thèses de Darwin, qu'une évolution lente s'est manifestée au cours des âges, afin de permettre aux espèces de s'adapter lentement au climat et aux exigences de la nature. Pour nous, le créationnisme, croyance qui estime que toutes les choses et tous les êtres vivants ont été faits d'un seul coup dans leur perfection, est une erreur profonde. En conséquence, imaginez que le corps de l'homme, mais seulement son corps, résulte d'une évolution qui avait redressé une certaine espèce de singe, pourquoi pas? Mais il ne s'agit ici que du futur corps de l'homme, et non de l'homme sur lequel Dieu aurait soufflé son esprit. Oui, le corps de l'homme descend peut-être du singe. Mais curieusement, la femme ne descend pas d'une guenon, mais de l'homme lui-même. Dieu prit une côte à l'homme pour modeler la première femme, Ève, qu'Adam, le premier homme, reconnut. Et là, la volonté de Dieu se manifeste étonnamment, et sa loi va bientôt se manifester à Adam et à Ève, afin qu'ils puissent montrer à Dieu l'amour qu'ils ont pour lui, l'amour que Dieu attend d'eux, de Dieu qui les emplit de son amour. Et d'un seul coup, nous comprenons la richesse de l'amour infini de la loi de Dieu. Et découvrant notre impuissance totale, sauf les possibilités que Dieu nous accorde toujours pour nous loger, manger, nous vêtir, en un mot pour vivre, nous découvrons aussi l'amour de Dieu qu'il manifeste par ses lois. La loi de Dieu, celle qui manifeste son amour pour les hommes, n'a rien à voir avec les multiples petits commandements que les hommes ont inventés pour créer des civilisations humaines. Non, la loi de Dieu, appelée aussi décalogue, conduit aux béatitudes exprimées par Jésus à ses disciples. Cette loi de bonheur était déjà rappelée et aimée dans le psaume 118, versets 97 à 99. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Par tes commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus sage que tous mes maîtres, car tes enseignements sont l'objet de ma méditation. Certes, la foi, c'est parfois difficile, parce que la foi, c'est grand. Mais comment comprendre l'athéisme qui s'évite aujourd'hui, malgré toutes ses offres pour satisfaire toutes les envies, les plaisirs, les débauches? Tous, nous connaissons les résultats dramatiques. Tant de malheureux, tant de dépressions, et les suicides, les attentats, au nom d'un Dieu qui n'en est pas un, car ce Dieu est sans amour. Mes amis, revenons vite au bonheur de la loi de Dieu par l'enseignement des béatitudes, qui nous conduiront à une vie saine, sainte et joyeuse, car délivrée de l'hédonisme destructeur du bonheur.